l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Se faire vacciner contre le Covid-19, certains s'y montrent réticents à cause d'éventuels effets secondaires. Ainsi, le gouvernement sud-coréen tâche de proposer des mesures incitatives pour séduire les récalcitrants. Évidemment, il y a aussi ceux qui sont impatients de recevoir leur dose, voire ceux qui n'attendent aucune contrepartie en retour, bien au contraire. À Ansan, une ville située au sud de Séoul, un homme très âgé, probablement un septuagénaire ou octogénaire, s'est récemment présenté à un guichet du service civil de la mairie. En glissant une enveloppe, il a dit « Je voudrais faire don de cet argent ». Le guichetier a alors appelé un employé qui travaille dans le service social afin de réceptionner correctement ce don. On a demandé au vieux monsieur son nom et son adresse comme la formalité administrative le demande dans ce cas. Or, l'homme ne voulait pas dévoiler son identité. Il a juste laissé son enveloppe avant de quitter le lieu. On y a découvert 1 million de won, soit 740 euros. Cette somme était accompagnée d'un petit mot écrit à la main sur un papier. Le donateur voulait remercier d'avoir été vacciné contre le Covid-19. On pouvait lire le message suivant « Je remercie de m'avoir vacciné contre le coronavirus et j'apporte cette contribution pour exprimer ma gratitude ». Ces mots ont été soigneusement écrits malgré quelques fautes d'orthographe. Ce geste bienveillant a touché ceux qui étaient présents sur place. Le maire d'Ansan a publié un message. Il a tenu à remercier le donateur anonyme d'avoir transmis ainsi la chaleur humaine pleine d'amour malgré la crise sanitaire économique du Covid-19. Il a promis d'utiliser l'argent en question pour aider des citoyens en difficulté. Selon la municipalité, le don sera versé à l'antenne régionale du Community Chest of Korea, une fédération d'associations caritatives. Des voix s'élèvent pour soutenir les citoyens birmans qui s'opposent toujours courageusement à la répression sanglante de la junte militaire en Birmanie. Parmi elles, une s'est fait remarquer en Corée du Sud. Il s'agit de Hwani Hwa, une adolescente d'origine birmane qui mène une carrière de chanteuse au pays du matin clair. Notre jeune artiste a présenté il y a une dizaine de jours une nouvelle chanson dédiée à sa patrie sous le titre « Everything will be okay », signifiant « Tout ira bien ». Elle y a mis un message plus centré sur l'espoir et le courage, alors que sa première chanson, pour la même cause, intitulée « Printemps au Myanmar », parlait plutôt de la douleur de son pays. « Everything will be okay », ce titre fait référence à la phrase inscrite sur le t-shirt porté par une jeune victime qui a été tuée par balle sous les tirs des forces de l'ordre lors d'une manifestation et qui est devenue le symbole de la résistance. Notre chanteuse dit avoir interprété sa chanson en souhaitant que la paix et le bonheur reviennent dans son pays natal et afin d'encourager ses concitoyens. Hwani Hwa a une histoire pas comme les autres. Elle a hérité sa vocation artistique de son père, qui était un grand chanteur des Karen, une ethnie minoritaire en Birmanie, mais qui est mort par accident lors de leur fuite vers la Thaïlande pour échapper aux persécutions contre cette minorité. Et sa famille a trouvé refuge en Corée du Sud il y a 5 ans. Depuis, Hwani Hwa a fait ses débuts en participant à un concours télévisé de chansons. Et notre réfugiée n'était pas insensible au sort de sa patrie. Le lycée où elle est scolarisée s'active aussi pour trouver des moyens qui puissent aider les citoyens du Myanmar, en publiant des mots de soutien aux Birmans ou en fabriquant des badges dont il fera don des recettes de vente pour cette cause. Ses 360 élèves y ont participé en écrivant à la main une prière pour la paix en Birmanie et en rassemblant leurs bouts de papier les uns aux autres pour dessiner une carte du pays d'Asie du Sud-Est. Les fonds levés, les dons récoltés ainsi que les revenus de la chanson continuent à être transmis à la population birmane sur place. Et Hwani Hwa est bien soutenue pour sa démarche. Ainsi, elle a vu le nombre de ses followers sur les réseaux sociaux dépasser les 300 000 personnes. Notre adolescente de 15 ans fera résonner son vœu le plus cher dans ses chansons en coréen, en anglais et en birman, jusqu'à ce que la paix revienne au Myanmar, et pourvu que son vœu soit exaucé le plus tôt possible. Quel gâchis, quel gâchis! C'est ce que les pêcheurs ne cessaient de répéter d'une seule voix en vidant leur bac plastique à poissons en pleine mer à bord d'un bateau près de l'entrée du port maritime de Solé, situé dans la ville d'Incheon, sur la côte ouest, la semaine dernière. Ils jetaient un tas de samchi ou tazar oriental, un poisson local ou tacheté de brun bleu, plus grand que le maquereau. Les poissons de plus de 60 cm déjà morts sombraient sous les eaux. Mais alors pourquoi sont-ils tous jetés? En fait, c'est parce que le ministère sud-coréen des Affaires maritimes et de la pêche a inscrit le samchi sur la liste des poissons dont la capture est interdite au mois de mai à partir de cette année. Les autorités appliquent strictement la nouvelle réglementation. Ce dispositif a été introduit pour protéger le samchi pendant la période de reproduction, à savoir celle d'avril à juin, parce que la quantité de poissons attrapés est en baisse constante pour passer de 35 000 tonnes en 2016 à 32 000 tonnes en 2020. L'ennui, c'est que le gouvernement a imposé le même principe sans distinguer les régions ni les méthodes de pêche, ce qui a suscité des mécontentements, surtout chez les pêcheurs de la région du centre qui utilisent le chalut à l'étalage. Celui-ci est un filet géant sous forme de sac ou d'entonnoir. Ancré face au courant, il attrape les poissons de différentes espèces qui passent par là sans exception. Or, le samchi a un tempérament impatient. Dès qu'il est coincé dans un filet, il meurt. Seul un samchi sur 1000 reste en vie une fois le filet remonté sur le bateau. À cause de l'interdiction, les pêcheurs ne peuvent pas les ramener sur la terre. Faute de mieux, ils jettent tous les samchis, même s'ils sont déjà morts. Une quarantaine de bateaux de pêche est en activité près de Solé. À partir du 12 mai, chacun a attrapé 300 ou 400 poissons de samchi par jour. Autrement dit, plusieurs milliers de poissons ont été jetés pour un seul mois de mai. Ça crève le cœur des pêcheurs. Selon eux, cela revient à gaspiller des ressources halieutiques et à provoquer la pollution maritime. Ainsi, ils demandent d'accorder une dérogation commerciale aux utilisateurs du chalut à l'étalage, ou bien de leur permettre de faire don des poissons à des fins caritatives. Ils soulignent l'impossibilité d'éviter de capturer uniquement le samchi, contrairement à la pêche à la traîne, dite aussi trolling, pratiquée par les bateaux spécialisés dans la pêche du samchi sur les côtes du sud. Selon la mairie d'Incheon, on peut comprendre le sentiment des pêcheurs, mais toute dérogation risque d'entraîner des cas abusifs et par ailleurs, il serait inapproprié de faire don des poissons dont la capture est interdite.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani. La neutralité carbone est de mise pour ralentir le changement climatique. Cela concerne toutes les industries, y compris le tourisme. L'Office national du tourisme coréen, le KTO, vient de lancer un projet pilote sur l'île de Yeondae, en partenariat avec la ville de Tongyeong, située dans le sud-est du pays. Il s'agit de proposer un voyage sans carbone. Le KTO a lancé un appel à candidats. Il organisera le séjour de 2 jours à 2 reprises. Un départ prévu le 19 juin et un autre le 25. 10 équipes seront sélectionnés pour chaque date. Au total, 20 groupes. Crise du Covid-19 oblige, pour respecter le principe de distanciation sociale, chaque équipe sera composée de 2 à 4 personnes. Le voyage aura lieu dans le parc écologique de Tongyeong, aménagé sur l'île de Yeondae. Celle-ci est surnommée l'île écologique, en ce qu'elle est devenue la première île autonome en énergie dans le pays grâce à l'installation d'équipements pour la production d'électricité photovoltaïque en 2011. Les participants s'adonneront au camping en testant des gestes écologiques qu'ils pourront pratiquer après le retour à leur quotidien. Ils seront invités à renoncer à 3 choses. Premièrement, ne pas utiliser d'énergie fossile pendant 24 heures. Ne pas se servir de produits jetables et finalement, ne pas émettre de déchets non recyclables. Ils suivront aussi un séminaire sur les petits gestes qui sauvent la planète et un atelier proposé par le chef d'un restaurant local de qualité qui donnera un cours de cuisine sans carbone avec des fruits de mer de la région. Ils apprendront aussi la technique de décomposition des déchets alimentaires grâce aux enzymes. Ils feront un tour de l'île en ramassant des déchets, notamment en plastique. Ils s'en serviront pour embellir l'île. Ils profiteront d'un Upplug concert ou concert débranché pour passer une vie joyeuse seulement à l'aide de l'électricité localement produite par l'énergie photovoltaïque. Ils feront aussi une virée nocturne pour regarder les étoiles. À partir des résultats de ce projet pilote, le KTO devrait élaborer des projets touristiques en version améliorée pour les proposer à partir de juillet prochain. Gucci renforce sa présence en Corée du Sud. La grande marque de luxe italienne a ouvert un nouveau flagship store dans le quartier d'Itaewon sur la rive nord du fleuve Han, après son premier à Cheongdam sur la rive sud à Séoul. Comme vous le savez probablement, un flagship store est un magasin jouant le rôle de vaisseau amiral, autrement dit servant de vitrine à la marque. Gucci a apporté de grands soins à son nouvel espace, d'autant plus qu'elle fête cette année le 100e anniversaire de sa naissance. La marque y a pris une initiative exceptionnelle. Son nouveau magasin, d'un niveau en sous-sol et de 4 étages de surface, est rempli d'objets typiquement coréens. Déjà, il est baptisé Gucci Gaeok, en empruntant le mot coréen désignant la maison traditionnelle du pays du matin clair, au lieu de reprendre simplement le nom de la rue comme d'habitude. Il s'agit de proposer un espace où les visiteurs pourront se reposer comme dans une maison coréenne offrant une grande hospitalité. Dès l'entrée du Gucci Gaeok, on peut voir à droite, près de l'escalier, sur l'écran numérique mural, une table dressée dite Gosa, où sont posées une tête de cochon, des gâteaux traditionnels, des poissons et des fruits au nombre impair comme il se doit. Il s'agit de reconstituer le rite d'offrande destiné à chasser les mauvais esprits et à attirer la bénédiction comme les Coréens faisaient, certains le font toujours d'ailleurs, en ouvrant un nouveau magasin ou un nouveau siège d'entreprise. Sur la façade de l'immeuble, on voit une œuvre du sculpteur sud-coréen Park Sung-hop qui y a superposé des lignes en aluminium de sorte à dessiner une forêt drue d'arbres. Park expose aussi une œuvre de médias d'art au troisième étage. Par ailleurs, on peut remarquer des produits qu'on ne peut pas trouver ailleurs que chez Gucci Gaeok. D'abord, ceux inspirés du Sekdong, une pièce d'étoffe à rayures avec différentes couleurs, utilisée notamment pour les vestes d'enfants traditionnelles. Par exemple, des portefeuilles, des sacs, des casques, des sneakers au motif Sekdong marié avec celui du logo Gucci. Le magasin a conçu un sac de shopping en exclusivité et propose aussi deux objets traditionnels pour empaqueter le produit, à savoir le bojagi, un carré de tissu servant à emballer des objets, et le nolige, une parure à accrocher. La marque y présente aussi 17 vêtements de la ligne Gucci Unicum, consistant à proposer un seul exemplaire au monde. Gucci Gaeok montre bien à quel point l'entreprise de luxe multinationale peut sophistiquer sa stratégie de localisation. Pour conquérir le marché en Asie, les marques de luxe se contentaient jusqu'à présent d'afficher des mannequins asiatiques ou de lancer des collections exclusives en collaboration avec des artistes de la région, sans jamais mettre autant de couleurs locales. Gucci a évidemment pris en compte la croissance explosive du marché sud-coréen, où elle a réalisé un chiffre d'affaires de 740 millions d'euros l'an dernier, malgré la crise du Covid-19. Séoul semble s'imposer comme un nouvel Eldorado de l'art. Et un quartier est en pleine émergence. Certains parlent même d'un recentrage du milieu artistique vers Hanamdong. En effet, quelques galeries étrangères prestigieuses ont choisi ce quartier pour y faire leur nouveau nid. D'abord, c'est la galerie Tadeusz Ropak qui ouvrira un espace en octobre prochain, alors qu'elle est bien installée à Strasbourg, à Londres et à Paris, avec un nombre de grands maîtres de l'art contemporain comme Georges Bezelitz ou Anthony Gormley. Cette grande galerie européenne a choisi Hanamdong pour implanter sa première antenne en Asie. Ensuite, Pace Gallery, une galerie d'art multinationale basée à New York, a déménagé début mai son antenne sud-coréenne depuis Itaewon à Hanamdong en s'offrant un espace 4 fois plus large que le précédent. Des galeries sud-coréennes suivent aussi le même mouvement dans ce quartier. C'est notamment le cas pour Gana Art. Mais comment expliquer l'ascension de Hanamdong? Eh bien, ce quartier offre quelques avantages. Il est un point névralgique en termes de transport pour garantir un accès facile, non seulement à la rive du nord, mais aussi à celle du sud. Il y compte de nombreux demandeurs potentiels en œuvres d'art qui ont un grand pouvoir d'achat. Et il est riche en capital culturel comme les beaux-arts, les spectacles vivants et la gastronomie, entre autres. Sans oublier la présence de Lium, le musée de la fondation de Samsung qui a ouvert ses portes à Hanamdong en 2004. C'est Hong Lai, l'épouse de Igeni, le défunt patron de Samsung, qui l'a dirigé, mais elle a dû démissionner suite à un scandale de corruption en 2017. Pour rappel, celui-ci a causé la destitution de l'ancienne présidente Park Geun-hye et l'incarcération de Lee Jae-yong, le dauphin de l'empire Samsung. Depuis, Lium faisait profil bas, en se contentant de maintenir seulement l'exposition permanente. D'ailleurs, il a fermé ses portes depuis mars 2020 suite à la crise sanitaire du Covid. Mais il devrait bientôt rouvrir. Il mène des travaux pour rénover l'intérieur et il préparait une exposition spéciale provisoirement intitulée « Humain ». Sa réouverture est très attendue depuis que la famille des héritiers de Higuenny a fait don d'une grande partie de sa collection d'art personnel du défunt. Lioum pourrait exposer les œuvres restantes de celle-ci.
Est-ce qu'il y a des plats qui forment un mariage gustatif ou nutritif particulier dans la cuisine de votre pays? Il existe certainement des aliments qui deviennent meilleurs d'une manière ou d'une autre en étant consommés ensemble. Comme la semaine dernière, Saveur du terroir vous présentera différents couples gustatifs que l'on peut déguster en cette période de l'année. Notre première destination cette semaine est la ville insulaire de Crotte, située dans la province de Gyeongsang du Sud, dans le sud-est de la péninsule. Ici, les trois femmes plongeuses appelées Haenyeon, qui forment un magnifique groupe, attirent notre regard. Chaque jour, les trois femmes se dirigent vers la mer, qui les accueille avec diverses créatures maritimes. Parmi elles, le mangue, une sorte d'acidie surnommée également la fleur de la mer, l'holothuri Hesam et la conque Sura, qui sont toujours ensemble comme les trois femmes, sont particulièrement abondantes en cette saison. Bien que le travail dans la mer soit difficile, les trois plongeuses se disent satisfaites et heureuses d'être consolées par les eaux qui leur fournissent des produits naturels saisonniers. Que prépare-t-on avec ces fruits de mer? Tout d'abord, le mangue, on peut le consommer bien frais et cru, mais afin d'apprécier sa texture molle et son parfum bien doux, on nous conseille de le blanchir légèrement dans l'eau bouillante. Le hesam, on le fait sécher afin de le consommer en été aussi. En effet, avec la hausse des températures, les holothuries se cachent dans les boues. En vue de bénéficier des effets fortifiants de ces dernières, on utilise les hesam séchés riches en protéines et en calcium pour en préparer un ragoût limpide. Lorsqu'on prépare le malin hesam insamtang, on n'oublie pas d'ajouter le ginseng insam qui forme un mariage nutritif parfait. Les deux produits fortifiant la mer et la terre réunis ensemble, contribuent à augmenter la valeur nutritive du plat. Il y a aussi le hesam sora pombok. On mélange le hesam et la conque crue avec le persil minari, puis assaisonne le tout à base de chogochujang, la pâte de piment rouge et de vinaigre, et le jus fermenté d'agrumes. Ce plat, au goût acide et doux et au parfum frais de la mer, permet de retrouver l'appétit. Les viscères de hesam, qui sont très précieux, on les mélange à la chair de mangue et le riz cuit à la vapeur pour préparer le hesam bibimbap. Garni d'algues marines brunes toutes et assaisonné de taillezang, la sauce à base de sauce soja, du piment rouge en poudre et la ciboulette sauvage taillez, il s'agit d'un délice succulent que seuls les haenyeon peuvent déguster au printemps. Déplaçons-nous au petit village montagneux Madongli, situé à Cheongju, une ville de la province de Chungcheong du Nord. Ici, Madame Anne, trentenaire, et Madame Xin, nonagénaire, forment un couple agricole. Si la première fournit sa force, la deuxième fournit sa sagesse pour le travail dans le champ. Pour la jeune agricultrice qui se lance dans ce nouveau métier, Xin, qui a passé toute sa vie dans les zones rurales, devient un bon professeur. Après le travail la matinée, Madame Xin et les habitants du village se retrouvent pour préparer le déjeuner et encourager la jeune femme. Avec les padan arrachés par ces dernières, Madame Xin prépare des nouilles kalguksu. On fait broyer les herbes puis les mélange à la poudre de farine que l'on pétrit pour préparer la pâte. On le trempe dans le bouillon infusé de courgettes, de laminaires et d'anchois séchés et cela devient un plat bien appétissant. Comme plat d'accompagnement, Madame Anne prépare le namul tteokbokki. On fait cuire la pâte de riz coupée en morceaux fins et l'assaisonne de manière pimentée avant d'y ajouter les différentes herbes dont le tzitzinge et le nengi. Bien que les herbes soient d'une saveur amère, elles seraient adoucies par le goût pimenté de la sauce. Pour Madame Anne, il s'agit d'un plat fortifiant qui donnerait la force pour le travail agricole. Mangez bien et restez en bonne santé tout au long du mois de juin.
Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yoon-ji à la rédaction, Franck Atleni au micro et Oh Ha-young à la réalisation. Je vous souhaite une excellente soirée.